Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Internet comme formidable outil de communication et de développement. C'est le sujet de ce club animé par Mireille Drone, comme tous les samedis et dimanches sur les ondes de la DW. Bienvenue à toutes et à tous. Vous en avez déjà entendu parler. Cette semaine, notre radio a organisé un forum mondial des médias ici à Bonn, en Allemagne, réunissant des participants du monde entier. Les questions abordées cette année tournaient autour du thème des inégalités dans un monde global. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi d'Internet sans frontières est aujourd'hui mon invité. Il nous dira combien Internet peut contribuer au développement d'un pays, mais hélas, les Tchadiens souffrent du manque d'accès à ce moyen de communication toujours coupé dans leur pays. Mais d'abord, un petit coucou à Henrique de Brasilia au Brésil, Boniface de Conakry en Guinée, Ibrahim d'Agadez au Niger, Vincent de Lomé au Togo, Nathan de Bukavu en RDC et Denis de Yaoundé au Cameroun, toujours fidèles à nos programmes radio et sur la toile. Et puis une pensée particulière encore à ceux qui ont fêté cette semaine leur anniversaire, à savoir Emmanuel d'Atapame au Togo, Ali de Korogo en Côte d'Ivoire, Géry de Lubumbashi, mais aussi Johnson de Kinshasa, tous les deux en RDC. Alors, nos meilleurs vœux. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, bonjour et bienvenue dans nos studios.
Bonjour madame, c'est un honneur d'être avec vous.
Mais c'est un honneur de vous recevoir. Vous êtes responsable de la division en Afrique centrale d'Internet sans frontières, basée à Paris, et défenseur des droits de l'homme aussi. Alors, peut-être un petit rappel, qu'est-ce que c'est exactement Internet sans frontières ?
Internet sans frontières est une organisation internationale pour la défense des libertés d'expression d'Internet, pour la défense des utilisateurs d'Internet et pour la protection des données sur Internet. C'est une organisation fondée par des militants qui se battent pour que les droits numériques soient une réalité et que les citoyens puissent utiliser Internet comme un droit universel. Aujourd'hui, Internet est devenu un outil que la société utilise pour évoluer. C'est la troisième ou quatrième révolution qui mène notre humanité vers un stade supérieur. Il y a eu des révolutions précédentes, révolution industrielle, révolution sur la technologie, la téléphonie, la radio, la lumière, l'électricité. Donc aujourd'hui, Internet est en train de permettre à notre monde de passer à une ère nouvelle. Mais cet outil est aussi, pour certains régimes, dans certains continents, un danger parce que ces régimes-là sont des régimes autoritaires qui oppriment leur peuple, qui empêchent leurs citoyens
de s'exprimer,
qui empêchent leurs citoyens d'avoir d'autres sources d'information que la source officielle qui est limite une source contrôlée, surveillée et censurée. Un outil qui permet aussi aux citoyens d'être des citoyens actifs, des citoyens proactifs et qui défendent leurs droits, qui s'informent sur leurs droits et qui deviennent non seulement des citoyens passifs à qui on leur dit c'est quoi leurs devoirs et leurs droits, mais aussi qui, eux, les réclament. Comme ils deviennent, eux aussi, producteurs d'informations. Ils deviennent témoins et aussi, ils comparent
avec les autres.
Donc finalement, c'est un outil qui permet d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des yeux, des oreilles et dire aux citoyens que maintenant, on est connecté au monde entier. Aujourd'hui, un citoyen au fin fond de l'Afrique. On prend, par exemple, une maman qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire. Mais, grâce à WhatsApp, elle peut parler dans sa langue, filmer quelque chose, une réalité qui se passe, et le mettre sur le réseau.
Mais est-ce donc, que ça correspond vraiment à la réalité? Parce que c'est ce que j'allais demander.
Donc finalement, c'est pouvoir. C'est un pouvoir qu'on donne aux citoyens.
Oui.
C'est un pouvoir qu'on permet aux citoyens de pouvoir se connecter aux autres citoyens. Aujourd'hui, en Afrique, et souvent, par exemple, au Tchad, on est tellement isolé sur le plan infrastructurel qu'à 10 kilomètres de village, c'est déjà des étrangers, on ne sait pas. Les gens ne sont pas connectés. Mais Internet permet justement d'aller au-delà de cet handicap et de ces contraintes, de connecter les citoyens entre eux, de s'organiser, même de vendre leur production. Les agriculteurs peuvent se dire, par rapport à la pluie, comment ça se passe, ça a plu ici, il n'a pas plu, quand il va pleuvoir. Que les commerçants qui peuvent vendre leurs objets et informer aux acheteurs ou montrer ce qu'ils font aujourd'hui. Quelqu'un qui a, par exemple, un mouton dans son un élevage. Il peut faire une photo de son, du mouton, le mettre sur Internet, et les acheteurs peuvent regarder le mouton et en décider de l'achat ou pas. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on dit Internet, pour Internet sans frontières, aujourd'hui, empêcher des citoyens à avoir accès à Internet devient un crime.
Mais alors, avant d'en arriver là, vous disiez évidemment, ça désenclave tout le monde peut avoir aujourd'hui accès, mais de facto, est-ce que c'est le cas? Parce qu'il faut encore que l'Internet soit présent, même au fin fond des campagnes, comme vous le disiez. Est-ce que l'Internet arrive aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme le vôtre, le Tchad? Actuellement, combien de Tchadiens utilisent Internet?
Donc, le taux de pénétration d'Internet sur le territoire tchadien était de, il y a 3 ans, de 3%, mais aujourd'hui, on a atteint à 6%. C'est l'ensemble de la population qui est de 15 millions de Tchadiens.
Parce qu'il y a plusieurs aspects, évidemment, quant à l'accès à Internet. Il y a d'abord, évidemment, l'accès matériel, pratique. Le câble optique arrive déjà au Tchad, si je ne me trompe.
On a tout ce qu'il faut. Le câble optique a été tiré depuis le Cameroun jusqu'au Tchad et du Tchad même jusqu'au Soudan. Le problème n'est pas du ressort de la présence ou de l'accessibilité au câble, non. C'est plutôt de la volonté politique pour pouvoir ouvrir la fibre optique afin que les opérateurs puissent en distribuer. Voilà. Aujourd'hui, les Tchadiens qui se connectent à Internet n'utilisent pas cette fibre optique, non. Ce n'est pas par le câble, mais par la 3G, le 2G, peut-être le 4G maintenant, ce qui permet justement aux citoyens, partout où ils sont, d'utiliser leur mobile phone. Donc, quand on regarde le taux d'utilisation d'Internet, c'est plus le mobile qui prend pratiquement 90% de l'utilisation d'Internet au Tchad. Donc, ce qui montre que la volonté des citoyens a vraiment à se battre pour avoir un terminal. Parce qu'aujourd'hui, avoir un téléphone portable, ce n'est pas donné.
Bien sûr.
Mais on voit comment les jeunes font. Ils vraiment se sacrifient pour avoir quand même ce téléphone parce qu'il devient une absolue nécessité pour ne pas être exclu de cette flux d'informations, de cette diversité d'informations qui est accessible sur les réseaux sociaux.
Et justement, quel est le coût de l'accès à Internet par rapport au revenu moyen, on va dire, d'un Tchadien, d'un jeune ou d'un citoyen lambda?
Malheureusement, aujourd'hui, au Tchad, le coût d'Internet est extrêmement cher, le plus cher d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le salaire moyen au Tchad est de 80-90 euros. Et un giga d'Internet aujourd'hui coûte à peu près dans les 12-15 euros.
Ce qui est
donc
énorme,
12 euros, c'était énorme. Donc, ce qui fait que pratiquement, on est à un quart, un tiers du revenu minimum au Tchad. Et ce qui est inacceptable économiquement pour un citoyen tchadien de pouvoir à choisir entre se connecter à Internet ou subvenir à ses besoins de base.
Alors après, il y a une question aussi de formation. Est-ce que tout le monde, vous évoquiez tout à l'heure le cas de cette femme à l'intérieur du pays, est-ce que tout le monde a un minimum de connaissances pour savoir utiliser cet instrument et puis aussi pour savoir s'en protéger?
L'utilisation d'Internet ou des outils qui permettent, des terminaux qui permettent d'avoir accès à Internet et surtout aux réseaux sociaux, c'est fait de façon très classique. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un media training ou d'avoir une école ou un institut quelconque pour apprendre à utiliser ces réseaux sociaux. Ils font du tutoriel maison. Les gens, aujourd'hui, s'apprennent mutuellement. La maman qui sait à peu utiliser Facebook donne son téléphone à son fils de lui ouvrir un compte Facebook pour savoir qu'est-ce qui se passe sur Facebook. La maman qui ne sait pas utiliser, ou le papa, le vieux papa du village, l'agriculteur, l'éleveur, donne à son fils, souvent les jeunes, vous savez, ils apprennent très, très, très vite. Donc, du coup, ils s'apprennent mutuellement. Les jeunes qui ne savent pas demandent aux autres de leur montrer que ça fonctionne. Une fois qu'une personne apprend, ça impacte sur toute sa famille. Un jeune apprend comment utiliser WhatsApp, comment utiliser Skype, comment utiliser Facebook. Pas seulement pour aller juste regarder ce qui se passe, mais on l'utilise par nécessité. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, moi, si je vais parler à ma petite sœur qui est au fin fond du village au Tchad, aujourd'hui, elle sait, elle m'appelle par WhatsApp en vidéo et on discute comme si on était là, ici, à Bonn. Donc, c'est ça, c'est cette nécessité absolue de pouvoir se connecter, de pouvoir parler aux uns aux autres, de pouvoir utiliser cet outil fait que les gens apprennent de façon phénoménale et fulgurante parce qu'ils ont absolument besoin.
Et c'est donc évidemment un extraordinaire instrument de développement, sauf que, comme vous disiez, il y a un manque de volonté politique. Alors, c'est un instrument de développement extraordinaire, mais c'est aussi un instrument qui peut être dangereux politiquement parlant, bien entendu. Comment expliquer qu'aujourd'hui, Internet soit toujours coupé au Tchad?
La question, ce n'est pas de dire que c'est parce que c'est dangereux, mais c'est dangereux pour qui?
Pour le pouvoir, c'est ça que je veux
donc
dire.
Donc voilà, on dit dangereux pour des régimes ou dans des pays où il n'y a pas l'état de droit.
Oui. Il n'y a pas la liberté d'expression.
Il n'y a pas la liberté tout court, puisque aujourd'hui, au Tchad, il est même interdit de manifester. Mm. Il est interdit d'émettre des opinions contraires à l'opinion du régime. Aujourd'hui, des journalistes, des médias ne peuvent pas critiquer le régime. Aujourd'hui, des radios qui sont même eu l'injonction de ne pas publier des communiqués de l'opposition ou de la société civile qui dénoncent des pratiques irrespectueuses de droits ou qui violent les droits des citoyens. Mm. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'États africains où il y a un minimum d'État de droit. Mm. Internet n'est pas vu comme un danger, mais comme une opportunité incroyable de rattraper des retards économiques, de pouvoir reconnecter les citoyens qui sont isolés les uns des autres dû au manque d'infrastructures. Par exemple, ici, aujourd'hui, vous avez des autoroutes, des trains, des avions, des gens voyagent, communiquent, utilisent ces outils-là. Au Tchad, beaucoup d'Africains n'existent pas. Aujourd'hui, pour voyager d'une région à l'autre, il faut mettre une semaine en voiture. Alors que par WhatsApp, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux parler à ma petite sœur qui est à 7000 km directement. Donc, ça dépend. Pour le régime dictatorial, il faut dire le mot, où la liberté tout court des citoyens n'est pas garantie, pour ces régimes-là, l'Internet est vu comme un danger parce que Internet donne un pouvoir aux citoyens. Internet transforme le citoyen passif où il subit l'information, où il consomme une information produite, contrôlée et censurée par l'État. Internet lui donne le choix de comparer, le choix de témoigner, le choix de réclamer ses droits, le choix d'être témoin, le choix de pratiquer sa citoyenneté active. C'est ça, un citoyen conscient, un citoyen qui a des yeux et les oreilles ouvertes, ou un citoyen qui a accès à l'opinion publique internationale, puisque aujourd'hui, Internet permet justement de communiquer comme vous, vous êtes ici à Bonn. Un citoyen peut faire des vidéos et vous l'envoyer directement à votre studio ici, par Facebook, par WhatsApp, dont le gouvernement ne peut pas contrôler. Donc le gouvernement est plus dans une situation de panique, parce qu'aujourd'hui, cette vague d'une digitalisation du monde qui arrive n'est pas compatible avec certains régimes. Parce que dans certains régimes, on est au Moyen-Âge encore. Pendant que nous, on est en train de se battre pour juste avoir accès à Internet, ici, les dirigeants, les gouvernements, les scientifiques, les fournisseurs d'Internet, les associations, tous se mettent ensemble, dialoguent, réfléchissent pour que cet outil-là soit l'outil de développement au service des citoyens.
Un outil de savoir,
finalement. Un outil qui permettra aux étudiants ou aux médecins de pouvoir soigner à distance, des outils qui permettent aux étudiants de pouvoir étudier, à télécharger des documents, des livres, avoir accès à des bibliothèques énormes de savoir. Un outil qui permet de savoir transférer le savoir-faire technologique. Donc, nos préoccupations sont tellement différentes que j'en étais triste. Que des gouvernements, des dirigeants ne se rendent pas compte qu'on est en train de passer.
La chance qu'on est en train de rater.
De rater.
Et du retard qu'on prend.
L'Afrique a raté la période de l'industrialisation. Aujourd'hui, on est en train de rater ce qu'il ne faut pas rater. Si on rate ce virage, l'Afrique sera, excusez-moi du terme, le trou noir du monde pour très, 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 très longtemps. On serait le sous-développé des sous-développés. Aujourd'hui, quand on regarde la carte d'Afrique sur le plan d'accès à Internet, justement, c'est un trou noir.
Alors qu'a priori, l'Afrique est finalement le continent de l'espoir de l'avenir, justement.
750 millions de jeunes entre 15 et 25 ans qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. 750 millions de jeunes qui sont formés, on est en train de les exclure sur le marché du travail. Aujourd'hui, l'emploi de demain, l'économie de demain, c'est l'économie numérique. Donc si on empêche cette jeunesse à pouvoir avoir accès à cet outil, à maîtriser cet outil pour la diversification de l'économie, à être des auto-entrepreneurs, à être des entrepreneurs tout court, à créer d'emplois, à imaginer, à réaliser des projets, à participer dans cette économie numérique qui est en train de se construire. Pour moi, en tout cas, en tant qu'acteur du numérique, ces dirigeants-là sont en train de commettre un crime contre l'humanité. Parce qu'on est en train d'exclure le 1/5 de l'humanité, quand même, c'est pratiquement 1 milliard de jeunes qui n'ont plus accès à ça. Et c'est un crime.
Mais est-ce que vous pensez que les dirigeants sont réellement conscients de ça? Parce que finalement, si on regarde un petit peu au-delà de cette volonté, bien sûr, de se vouloir se protéger de son opposition, par exemple, c'est quand même une bombe à retardement. Tous ces jeunes qui n'ont pas accès justement à l'information, à l'éducation, ainsi de suite, par manque d'accès à Internet, ça risque de se retourner contre eux un de ces jours. Il risque d'y avoir des révolutions un petit peu partout à cause de ces jeunes qui vont descendre dans les rues et qui vont plus se laisser faire.
Ben justement, c'est ce qui est en train de se faire. Après les révolutions en Tunisie, Burkina Faso, où on a tenté d'empêcher justement cette vague d'y arriver. Aujourd'hui, c'est ça la marche de l'histoire. On peut essayer de retarder, mais inéluctablement, ça viendra, cette révolution. Donc, ces gens qui essaient aujourd'hui d'essayer d'empêcher ça encore, maintenir leur peuple sous cloche, bah justement, quand ça explose, ça fera très très mal.
Ce sera trop tard.
Et justement, c'est ça le rôle qu'il doit jouer. C'est ça le rôle de la communauté internationale, de prévenir cela. Pourquoi aujourd'hui, l'Afrique est en train de vomir sa jeunesse? Pourquoi aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de partir ailleurs?
D'émigrer.
D'aller aujourd'hui là, vers où tout se passe, où ils ont accès à des opportunités incroyables de pouvoir se réaliser, de pouvoir au moins avoir une vie meilleure. On peut le faire en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Si on ouvrait Internet, si on augmentait le débit, si les gens peuvent se connecter, créer d'emplois, vendre leurs produits, les agriculteurs peuvent vendre à des agriculteurs ici en Allemagne, en France, en Europe, avoir accès à la bourse du travail, essayer de coter leurs produits. Vous imaginez comment l'Afrique va décoller? Voilà, on est en train de rater cette chance à cause de certains individus, pour des intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes, sont en train de punir toute une génération.
Alors justement, vous, Abdelkerim, vous êtes activiste. En quoi consiste justement votre travail? Dans quelle mesure vous pouvez contrer ces tendances fâcheuses et œuvrer justement au déblocage de la situation dans votre pays, par exemple?
On se mobilise à tous les niveaux. Au niveau d'abord citoyen, on essaye de pouvoir passer le message à ce jeune en essayant de leur demander de s'organiser à travers les organisations de la société civile, les associations des consommateurs, même à des groupes qui peuvent réclamer leurs droits. Donc, on leur dit, c'est votre droit. Personne d'autre ne viendra le réclamer à votre place. Vous ne savez pas comment faire? Voilà les outils, voilà la façon de faire. Donc, le fait de se constituer en un groupe et réclamer son droit donne plus de force que d'être des consommateurs isolés. On dit aux citoyens, d'ailleurs, ils le savent, que c'est injuste ce que vous vivez, il va falloir vous mobiliser pour changer les choses. Au niveau institutionnel, on fait comprendre à ces gouvernements tchadiens ou d'autres pays africains qui violent ces droits et qui empêchent leurs citoyens d'avoir accès, on leur rappelle que le Tchad a signé des traités. Le Tchad a des engagements internationaux, qu'ils soient à l'UIT, à l'ONU, aux chartes africaines, parce qu'à l'Union africaine, les États ont signé des chartes, ils sont engagés sur des choses que ces États-là ne sont pas en train de respecter. Donc, nous, on écrit à ces institutions pour leur dire les réalités-là. On essaie d'avoir des leviers de pression pour pouvoir changer les choses. Et aussi par une mobilisation internationale, en ayant le soutien, par exemple, d'Internet sans frontières, d'Access Now, Web Activists, parce que les activistes africains se sont mis en ligue, en réseau, pour pouvoir aussi mettre la pression, pour faire comprendre à ces dirigeants l'aberration de leur action. Parce que cette façon de faire est en train de même prendre une inégalité, accentue l'inégalité au sein des citoyens. L'inégalité d'avoir à l'accès à l'information, parce qu'on a parlé de l'inégalité au forum. Mais ces inégalités-là sont aggravées par ces comportements de ces citoyens. Voilà, donc en tant qu'activiste, ce que je fais, c'est ça. Essayer de se battre, informer, mobiliser et attirer l'attention du monde et de l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui se passe dans ces États-là. Et que, qu'ils soient sur le plan personnel, institutionnel, des organisations, qu'on puisse se mobiliser pour pouvoir changer les choses.
Mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu justement de la mobilisation externe, aussi bien des dirigeants africains, par exemple de la communauté africaine, que de la communauté internationale, qui finalement laisse le président Déby tranquillement continuer sans le gêner parce que, évidemment, il a l'arme de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu quand même?
C'est plus que déçu. Je suis très en colère. En colère, pourquoi? Parce que je vois l'incohérence fâcheuse, l'incohérence qui enlève toute légitimité, crédibilité et confiance à ceux et celles qui, matin, midi, soir, nous parlent de valeurs, nous parlent de principes, nous parlent de démocratie, qu'il fallait protéger, développer, diffuser. Mais ces mêmes personnes, ces mêmes institutions, ces mêmes États qui nous disent de la main droite tout cela, font exactement le contraire de la main gauche.
Beaucoup d'hypocrisie.
Énormément d'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils défendent des intérêts quelconques. Aujourd'hui, chacun défend ses intérêts. Les gens s'assoient sur leurs principes pour des intérêts. Les gens s'assoient sur leurs valeurs pour des intérêts. C'est ça, ça nous rend malades. Ça rend la jeunesse africaine complètement déconnectée ou même détourne la jeunesse africaine. Le pire, c'est qu'on dit, on combat le terrorisme. On combat ces bandits, ces personnes qui aujourd'hui sont en train de mettre en danger notre humanité. Mais on utilise des individus qui sont la cause de l'émergence de ce cancer sociétal. Si ces dirigeants étaient des bons dirigeants, des dirigeants qui ont une vision, des dirigeants qui offrent l'espoir, l'avenir à des citoyens, à des jeunes, vous croyez vraiment que ces jeunes Africains vont choisir d'aller suivre Ces terroristes qui déchirent chez eux pour avoir de l'espoir? Non. Et qu'est-ce qu'ils pensent ces jeunes si cette même communauté internationale utilise ces dictateurs, les met sur un tremplin, les légitime, les glorifie limite en disant que oui, ils sont indispensables parce qu'ils permettent de combattre des terroristes en utilisant, je dis bien en utilisant, une armée de répression intérieure, une armée qui tue ses propres citoyens pour un homme, pour une famille. Une armée qui n'a de républicain que le nom. Une armée qui est au service d'un homme, pas d'un État, d'une société. Cette armée brutale, violente, c'est ces soldats-là qu'on est en train de les glorifier. Qu'on est en train de les amener pour combattre des terroristes. Non. Moi, je dis toujours, au moins à ceux que je rencontre, qui écoutent ce qu'on dit, parce qu'on ne nous écoute même pas, que si aujourd'hui, mais vraiment, vous voulez la solution contre le terrorisme, c'est de permettre à des sociétés, à des nations, de pouvoir avoir leurs propres dirigeants, de choisir leurs dirigeants, de se mettre derrière leurs dirigeants et d'aller ensemble avec leur peuple, leurs dirigeants,
les pays.
Pour combattre ce cancer qu'est le terrorisme, pour convaincre à ces mamans, à ces papas, à ces jeunes de ne pas partir, puisqu'il y a l'espoir d'une vie meilleure chez nous,
chez soi.
À ces vendeurs de rêves, à ces charlatans. C'est ça la solution. La solution contre le terrorisme n'est pas que militaire. C'est l'erreur fondamentale que font cette communauté internationale où pense que tout est militaire. La solution n'est pas militaire. Enfin, elle est indispensable, l'armée. Mais elle n'est pas que militaire. On a balayé tous les autres aspects et on brandit seulement l'aspect militaire. Ils ne se sont pas posé la question. Le Tchad, pays le plus pauvre d'Afrique, qui est sous perfusion de l'aide de la communauté internationale, qui n'arrive pas à payer ses propres fonctionnaires, qui aujourd'hui
sont en grève.
Les hôpitaux sont fermés, l'école est fermée, l'économie est stagnante, où la situation est explosive, en pleine crise politique, crise sociale. Ce pays-là a pratiquement, sur le plan militaire, l'armée pratiquement la plus forte. Mais où il a trouvé l'argent pour acheter les armes? Où a trouvé cet argent pour créer cette puissance militaire dont on est en train de vanter? Au détriment de quoi? Ils ne se sont pas posé cette question. Ou bien, ils le font sciemment parce qu'ils s'en foutent royalement de ce que deviendra ce peuple tchadien tant qu'ils ont quelqu'un qui répond à leur appel pour faire un travail. C'est ça, c'est ces incohérences qui nous tuent. Ces incohérences qui mettent en danger notre vivre ensemble au Tchad. Cette incohérence, peut-être, le fait qu'ils font maintenant, c'est une solution à court terme. Tout de suite, maintenant, oui, mais après, à long terme, qu'adviendra la situation? Voilà, c'est cette incohérence qui me met hors de moi et qui, encore, me donne la force, la conviction de continuer à dire à cette communauté internationale qu'ils doivent se ressaisir, qu'ils doivent écouter la société civile, qu'ils doivent écouter le peuple, qu'ils doivent au moins être un peu en cohérence et en harmonie avec ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font.
Merci beaucoup Abdelkarim et puis surtout bon succès à vous, bon courage et j'espère que cet appel vibrant sera entendu.
On espère de tout cœur. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier, surtout à la Deutsche Welle, qui est en train d'aujourd'hui être ce que devait être les médias. Surtout pour nous les Africains, cette liberté d'informer, de nous donner une information de qualité, des tribunes pour pouvoir nous exprimer, que les peuples puissent dire ce qui se passe, que les activistes puissent parler, porter notre voix, que aussi les citoyens entendent d'autres choses que des radios nationales qui disent des choses complètement inverses. Vraiment, aujourd'hui, avec le Forum Global Media, vous nous avez donné l'opportunité de pouvoir parler au monde entier, à des acteurs qui sont les architectes du monde de demain, qui sont en train de nous construire quelque chose dont on était exclu. Nous avons rencontré des ingénieurs, des scientifiques, nous avons rencontré d'autres personnes qui luttent comme nous. Nous avons des hommes politiques qui sont venus parler ici. Je voulais, au nom de tous les nôtres, vous dire merci.
Voilà, si vous voulez réagir à ce magazine, envoyez-moi par exemple un mail à l'adresse suivante mireille.drone@dw.com. Vous pouvez aussi laisser un message écrit ou parlé via WhatsApp. Pour vous inscrire, tapez dw.com/WhatsApp et vous serez guidé. Vous recevrez en plus nos informations gratuitement. Je vous invite aussi à consulter notre site internet en tapant dw.com/France. français sans cédille. Vous y retrouverez toutes les émissions du Club de l'Auditeur et tous nos programmes à télécharger dans la rubrique médiathèque en haut de la page d'accueil, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. À très bientôt, j'espère, de vos nouvelles. Bonne écoute et bon week-end à tous. Au revoir.